VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. En Côte d'Ivoire, plaidoirie de la défense aujourd'hui à Abidjan au procès pour atteinte à la sûreté de l'État de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés. L'accusation avait présenté son réquisitoire hier et réclamé notamment 10 ans de prison pour Madame Gbagbo. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vache exige la conclusion des enquêtes sur les assassinats politiques perpétrés il y a 5 ans, notamment ceux du chef de l'État Nino Vieira et de son chef d'état-major. Des précisions avec Michel Joseph.
Prenant la parole lors de la rentrée judiciaire à Bissau, le chef de l'État a déclaré que des crimes comme l'assassinat de Nino Vieira et du général Tagme Naavai choquent le sentiment collectif du peuple et portent atteinte aux institutions de l'État. Il dit vouloir sauvegarder la crédibilité de l'appareil judiciaire en Guinée-Bissau en exigeant l'aboutissement de ces enquêtes qui se poursuivent sans résultat. João Bernardo Vieira, dit Nino, avait été assassiné en mars 2009 par des militaires quelques heures après un attentat à la bombe ayant tué le chef de l'armée. Apparemment un acte de vengeance, rappelle l'AFP. Mais les coupables n'ont pas été identifiés et punis. La justice a même remis en liberté des suspects, des militaires, faute de preuves. Réagissant à l'appel du président Vaz, le procureur général Hermenegildo Pereira a déploré le manque chronique de moyens financiers pour les investigations, surtout quand il s'agit de crimes complexes.
En Centrafrique, deuxième des 3 jours de grève décrétés par le syndicat des magistrats du pays. Les juges centrafricains réclament le paiement de primes de responsabilité et aussi des frais d'évacuation sanitaire. Le point avec le président de leur syndicat, Parfait Rodrigue Yangendia.
Le 15 juillet 2014, la chef de l'État de transition avait signé une série de décrets accordant des indemnités de responsabilité aux magistrats centrafricains. Les magistrats, dans leur traitement, n'ont jamais eu d'indemnités de responsabilité et ce n'était que justice que cela soit pas rétabli. On a été patient, on a attendu jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a encore été assez patient parce qu'on s'est dit qu'il y a eu un 12e provisoire qui avait été voté par l'an provisoire pour gérer les affaires de l'État. Et dans le traitement du salaire du mois de février, on s'est rendu compte que ces indemnités n'ont pas été prises en compte, quand bien même le budget 2015 a intégré, n'est-ce pas, ces indemnités-là dans l'exécution, n'est-ce pas, donc de la loi des finances 2015. C'est ainsi que nous avons mené des démarches au niveau des finances. N'ayant pas reçu de bonnes réponses, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 19 février 2015 à l'intention du gouvernement. Et donc nous avons donc décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours.
Parfait Rodrigue Yangendia, président du syndicat des magistrats de Centrafrique. En RDC, l'opposition a déposé hier au bureau de la Commission électorale nationale indépendante un nouveau calendrier en vue des élections de 2015 et 2016. Il s'agit d'un document d'une dizaine de pages contenant les propositions que les représentants de nombreux partis de l'opposition ont remis au vice-président de la CENI. Écoutons le reportage de Walter Nkouy de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Les propositions des différents partis politiques de l'opposition ont été compilées dans un document d'une dizaine de pages. Cette composante de la classe politique congolaise a dans son préambule dit vouloir des élections libres, transparentes, crédibles pour éviter des couacs. Ingele Ifoto était le rapporteur général du jour.
Nous voudrions que ce soit les élections prévues par la Constitution, les élections transparentes, les élections démocratiques crédibles. Pour le faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc, nous cherchons à créer un climat de confiance pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus.
Mais à quoi s'attend-on après avoir déposé cette proposition? Joseph Olengankoy, président de FONUS, nous répond.
Nous nous attendons à apaiser l'ensemble de notre peuple pour qu'il y ait des élections apaisées, transparentes, voire réellement la passation du pouvoir en 2016 entre le président entrant et le président sortant.
Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas ramené ce débat au Parlement? John Kolela, député de l'UDPS, est clair.
Même si le débat sera orienté vers l'Assemblée nationale, nous avons souhaité mettre tout le monde à temps utile à ceux qui puissent être imprégnés de notre position, c'est-à-dire nous voulons le débat à tout le niveau, de sorte que tout le monde soit suffisamment informé. Ce calendrier, c'est vrai qu'il est global, mais il viole la Constitution et il viole aussi le consensus. C'est une lettre de toute l'opposition pour tirer le signal d'alarme par rapport au danger qui est en train de nous guetter.
Certains opposants comme Corneille Moulumba indiquent que le verre est déjà dans le fruit parce que les articles 115 et 145 de la nouvelle loi électorale conditionnent la répartition des sièges et le quotient électoral à un préalable identification de la population, ce qui risque de tirer les choses en longueur.
Voilà, c'était un reportage de Walter Nkouy de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Suisse, troisième et dernier jour de négociations directes à Montreux entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif sur le programme nucléaire de Téhéran. Monsieur Kerry se rendra plus tard dans la journée en Arabie Saoudite pour des consultations avec les pays du Conseil de coopération du Golfe arabo-persique sur le potentiel impact sur eux d'un accord sur le nucléaire iranien. Par ailleurs, le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Congrès des États-Unis hier sur le nucléaire iranien a suscité de nombreuses réactions, dont celle du président américain Barack Obama. Jacques Aristide nous en dit plus.
Un discours qui n'a rien apporté de nouveau et n'offre aucune alternative viable au règlement diplomatique. Les mots du locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, peu après l'intervention de Benjamin Netanyahou, qui a averti qu'un accord sur le nucléaire iranien n'empêcherait pas Téhéran d'avoir la bombe atomique. La chef de file des démocrates à la Chambre des représentants a été plus directe. Nancy Pelosi s'est dite attristée par l'insulte faite à l'intelligence des États-Unis, telle que le rapporte l'AFP. Une cinquantaine de démocrates ont boycotté le discours prononcé par un premier ministre en campagne électorale et qui espère que le Congrès, contrôlé par les républicains, votera de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Ce à quoi Washington est opposé, de peur que les pourparlers internationaux qui se déroulent depuis un an et demi ne volent en éclats.
Et maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Comment les pays africains peuvent-ils gérer leur capital naturel vers le développement durable tout en comblant l'écart de pauvreté? C'est le thème de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se déroule au Caire jusqu'au 6 mars. La tendance sur le continent est de promouvoir les emplois verts pour répondre aux défis environnementaux. Marcona Essangui, président de Brainforest Gabon.
Je crois aux emplois verts, mais en quoi faudrait-il que nos dirigeants soient complètement dans cette logique? Un pays comme le Gabon, par exemple, peut facilement promouvoir l'emploi vert, par exemple la promotion des produits forestiers non ligneux. Est-ce que, par exemple, au Gabon, les gens vivent des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire en dehors du bois? Est-ce que d'autres produits peuvent faire vivre l'économie gabonaise?
Lors de la journée mondiale de la vie sauvage, hier, le Kenya a brûlé un important stock d'ivoire afin de lutter contre le braconnage en Afrique. Dans un geste symbolique, le président Uhuru Kenyatta a mis le feu à plus de 15 tonnes d'ivoire dont la valeur s'élèverait à plus de 30 millions de dollars. L'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages doivent être rendus inutilisables partout dans le monde, a-t-il déclaré.
VOA Afrique, c'est aussi sur 102 FM à Dakar. Le lancement officiel a eu lieu hier dans la capitale sénégalaise. Idriss Fall, notre envoyé spécial, a tendu son micro à des jeunes de Dakar pour leur demander l'importance des médias dans leur vie quotidienne.
Lorsqu'il s'agit de passer à la loupe les médias sénégalais, les jeunes dakarois sont assez partagés. Il y a d'abord les accros de la presse sous toutes ses formes à consommer au quotidien sans aucune modération.
Je m'appelle pas Moussa Traoré. Je ne peux pas rester un jour sans connaître ce qui se passe. D'un moment à l'autre, je parcours le monde, entre guillemets, à travers les médias. Ça devient indispensable.
C'est Fama John. Les médias occupent une place très centrale dans ma vie. On peut dire que c'est une histoire de complicité entre moi et les médias, dans la mesure où le fait de rester toute une journée sans écouter ni la radio, sans regarder la télé, ni lire les journaux, je suis un peu déconnecté du monde. Je ne parlais même pas de ne pas regarder les sites internet.
Il y a aussi des jeunes plutôt sceptiques.
Je me nomme Mohamed Doudoutal. Il y a un problème. La majeure partie des jeunes, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'ont pas le temps d'écouter de la radio. Les principaux cibles des médias sont des femmes au foyer, les femmes de ménage et comme ça. Nous avons aussi un système qui ne nous encourage pas à acquérir l'information en tant que telle. Ils font de telle sorte qu'on ne s'intéresse pas à la politique, on ne s'intéresse pas à la santé, on ne s'intéresse à rien du tout. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas certaines radios.
Depuis Dakar, Idriss Fall, VOA Afrique.
Merci Idriss. Pour terminer, le département américain de la justice ici aux États-Unis a conclu à l'issue d'une enquête que la police de Ferguson dans le Missouri s'est rendue régulièrement coupable de pratiques caractérisées par des préjugés raciaux. Un rapport en ce sens doit être publié aujourd'hui. Pour rappel, le gouvernement fédéral avait ouvert son enquête après la mort en août dernier de Michael Brown, l'adolescent noir non armé abattu par un policier blanc Darren Wilson dans cette ville.
Soyez au cœur de l'info.